Le Seigneur a mis sur mon cœur ce texte de Romains, chapitre 12, versets 1 à 2. Alors je vous le lis, frères et sœurs chrétiens, Dieu est plein de bonté pour nous. Alors je vous demande ceci, offrez-lui votre personne et votre vie. C'est le sacrifice réservé à Dieu et qui lui plaît. Voilà le vrai culte que vous devez lui rendre. Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Ainsi, vous pourrez savoir ce qu'il veut, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Amen. Voilà ce texte. Alors ce matin, comme vous le voyez sur cette diapo, transformé par le renouvellement de ma mentalité, hein, c'est le point numéro un. C'est-à-dire que ce matin, ce que je veux juste faire, c'est une introduction en me posant cette question, mais pourquoi est-ce que Dieu désire, en tout cas c'est ce que l'apôtre Paul nous transmet, est-ce que Dieu désire que nous soyons transformés dans notre mentalité, hein, ça dépend, il y a des versions, donc là dans cette version-là, c'est parler de notre intelligence, il y a des versions, je vous en lirai une tout à l'heure, qui nous parle de notre mentalité. Transformer, pourquoi est-ce qu'il est nécessaire que je sois transformé dans ma mentalité? Et comment? Alors, donc, pourquoi? J'ai relevé, et je vous parlerai donc de trois points ce matin. Le premier point, c'est que ma chair, hein, donc que je suis finalement, dans mon être intérieur, eh bien, ma chair, c'est la source naturelle de mes pensées, de ma mentalité, de ce que je suis. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, eh bien, je dois être transformé effectivement par le renouvellement de ma mentalité, puis on verra deux choses dans ce cadre-là. Et puis, le troisième point, c'est que finalement, je dois être transformé par choix, c'est-à-dire je choisis d'être transformé pour être sous le contrôle de l'Esprit de Dieu et non plus sous le contrôle de ma propre nature. Donc c'est juste une introduction sur l'ensemble de ce verset qui, je pense, nous conduira à davantage de points forcément et davantage de réalités concrètes dans notre vie de tous les jours. Alors, dans ce premier point, donc ma chair qui est la source naturelle de mes pensées, eh bien, deux sous-points, je vais dire. Il y a le premier sous-point, c'est que, eh bien, on est, notre nature dépend, les conséquences du péché originel, elles ont une incidence sur notre nature, sur ce qu'on est, enfin, sur notre chair, notre être intérieur. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'il y a une dualité entre ma nature charnelle et ma nature de serviteur de Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait que jusqu'à la fin de sa vie, et puis c'est valable pour nous bien sûr, c'est qu'on doit faire mourir notre nature de chair. Il y a cette dualité qui est là, entre notre nature, je veux dire naturelle, je ne sais pas comment dire, et puis notre nature de serviteur de Dieu transformée par l'Esprit de Dieu. Alors, donc, ma chair, qui est donc la source naturelle de mes pensées, et donc les conséquences. Si on prend Genèse chapitre 1, verset 27, il nous est dit ceci. Donc bien sûr, vous connaissez ces textes, mais on va juste les rappeler. Parce que quand même, dans ce qu'on va voir ici, il me semble en tout cas qu'il y a une importance considérable. Ce serait une folie, je pense, en tout cas, c'est ma pensée, de ne pas réaliser ça. Alors, dans Genèse chapitre 1, verset 27, il nous est dit « Alors Dieu créa ou crée les humains à son image. Et ils sont vraiment à l'image de Dieu. Il les crée, hommes et femmes. » Hein, vous connaissez tous ce texte. Dieu crée les humains. Il a créé l'homme et la femme à son image. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, Adam a été créé à l'image de Dieu, comme je l'ai écrit là, donc libre, parce que Dieu, enfin, On est libre, oui. Mais on est libre, mais en même temps, la liberté que Dieu nous donne nous rend responsables de nos actes. Et quand Adam a été créé, eh bien, il a été créé, bien sûr, libre, responsable de ses actes. Il a aussi, bien sûr, été créé sans péché et en communion avec le Dieu créateur. Rappelez-vous comment c'est décrit dans le jardin d'Éden. Il y avait cette relation parfaite entre Adam et puis Dieu. Et même entre Adam, Ève et Dieu. Et puis, il s'est passé quelque chose. Dans Genèse chapitre 5, il s'est passé quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a eu le péché d'Adam et d'Ève. Et puis, ce péché d'Adam et Ève, eh bien, il est venu comment ? Il est venu à cause de l'orgueil, comme je l'ai écrit là, la convoitise, la désobéissance. Ils ont désobéi à l'ordre de Dieu, et puis à cause justement de leur orgueil, de la convoitise, et puis finalement leur désir d'être comme Dieu. C'est Satan qui a insinué ces pensées-là. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est arrivé, et à cause de ça, il y a donc eu la chute. Et puis, si on prend maintenant Genèse chapitre 5, verset 3, et c'est là, à mon avis, qu'il y a quelque chose de très intéressant à noter, c'est que il nous est dit ceci. Adam était âgé de 130 ans quand il eut un fils pour être celui qui lui ressemble, son image, et lui donna le nom de Seth. Frères et sœurs, il me semble qu'il y a là un élément extrêmement important dans ce verset. Tout à l'heure, on a lu, et c'est une réalité, que Adam a été créé à l'image de Dieu. Il a été créé, encore une fois, sans péché, libre, responsable de ses actes. Et il nous est dit ici, et donc il y a eu le péché d'Adam et Ève, et puis il nous est dit ici, donc après le péché, après la chute, après qu'Adam et Ève soient éjectés du jardin d'Éden, eh bien, il nous est dit, la Bible nous dit, que la descendance d'Adam a été créée à l'image d'Adam. C'est-à-dire que la descendance d'Adam, eh bien, elle a été créée avec cette image d'homme déchu, avec cette image d'un homme qui a en lui cette nature de péché, qui a en lui cette nature d'orgueil, qui a en lui cette nature de convoitise, qui naturellement va l'amener dans sa nature même à désobéir à Dieu et dans sa nature, finalement, à vouloir être comme Dieu. La descendance d'Adam a été créée à l'image d'Adam. Elle a été créée, elle est créée, elle découle de l'image d'Adam. Ce que je veux dire par là, c'est que finalement, nous sommes tous les uns et les autres. À l'origine, Dieu a voulu nous créer à son image, mais aujourd'hui, quand on arrive sur cette terre, et puis je pense qu'on le réalise tout dans notre cœur, est-ce que dans notre nature, naturelle, est-ce qu'on accomplit la volonté de Dieu? Si on est honnête, je pense que vous l'êtes tous ici, si on est honnête, on ne peut pas dire oui. On sait bien que si on laisse faire notre nature naturelle, on va plutôt faire comme Adam et Ève. Pourquoi? Justement, parce que qu'on le veuille ou non, eh bien notre nature, eh bien elle est à l'image de cet Adam déchu. Et ça, pour moi, quelque chose de, c'est pour moi, une réalité que j'ai besoin de comprendre et de saisir. Parce que ça, si je considère que dans ma nature, quand je suis le petit bébé innocent, eh bien, je suis celui qui est créé à l'image du Dieu parfait, à l'image de celui qui est sans péché, de celui qui a en lui que des bonnes choses. Eh bien, il me semble que je suis en train de me tromper. Le bébé innocent qui arrive, eh bien, il n'est pas, je vais peut-être vous choquer, mais il n'est finalement pas si innocent que ça. Parce qu'il a déjà en lui cette nature de cet Adam déchu. En tout cas, c'est ce que je comprends de ces deux versets qu'on vient de lire. Et si je comprends ça, c'est parce que aussi, ce que je lis de la Bible me révèle ça. Et donc ce matin, je suis en train de vous dire, je suis juste en train de faire une introduction sur ce texte. Et parce que, j'essaie de répondre à cette question que je me pose aussi, mais pourquoi est-ce que j'ai besoin d'être transformé par le renouvellement de ma mentalité, transformé par l'Esprit de Dieu? Eh bien, c'est que si j'ai besoin d'être transformé, c'est parce que naturellement, je n'ai pas en moi le désir, je n'ai pas en moi la nature parfaite du Dieu créateur. Est-ce que vous comprenez dans ce que je suis en train de dire? Et donc, par exemple, dans 1 Corinthiens chapitre 11 au verset 3, l'apôtre Paul va dire « Or, j'ai bien peur que ne suiviez l'exemple d'Ève qui s'est laissée séduire par les ruses du serpent. C'est-à-dire que vous ne laissiez vos esprits se corrompre et vos pensées se détourner de la simple fidélité due à Christ. Je crains que vous ne perdiez la sincère ferveur avec laquelle vous lui étiez attaché. » Donc, bien sûr, l'apôtre Paul ici est en train de parler à l'église de Corinthe, il est en train de parler à des chrétiens. Il est en train de nous parler, parce qu'on est des serviteurs et des servantes de Dieu ici. Et il me semble, en tout cas, pour moi, mais je pense que c'est la même chose pour vous, il faut que je me laisse interpeller par cette réalité-là. Il faut que je me laisse interpeller par cette réalité de savoir et de vivre, moi, en tant qu'enfant de Dieu quand même, avec cet élément où je sais que ma nature, si je laisse faire ma propre nature sans qu'elle soit transformée par l'Esprit de Dieu, eh bien, je vais ressembler à cet Adam déchu et non pas au Dieu créateur pur et saint. Alors, donc, ça c'est vraiment de ce que je comprends, moi, vous me direz peut-être tout à l'heure, si vous trouvez que je me trompe, vous avez le droit, mais je ne pense pas me tromper. Mais je crois que les conséquences du péché originel ont une incidence sur notre nature. On est, frères et sœurs, qu'on le veuille ou non, on est de la même nature que Adam, de cette nature déchue, j'entends. Et ça me semble important de le réaliser. Alors, la deuxième réalité, c'est qu'il y a donc, comme je disais tout à l'heure, cette dualité. Il y a ce combat qui durera jusqu'à la fin de nos jours, entre cette nature charnelle qui nous vient d'Adam et ma nature de serviteur de Dieu. Ma nature qui désire être transformée, touchée par l'Esprit de Dieu. Alors, moi, je me fais ce constat. Je ne sais pas si vous pouvez faire le même, c'est ce que j'ai écrit là. Si je veux être tranquille avec moi-même, avec cette nature que j'hérite de Adam, si je veux être tranquille avec moi-même, il suffit que je renonce à être transformé par la parole et l'Esprit de Dieu. Et puis, je n'ai plus de combat. Dans ma nature, j'ai plus besoin de ressembler à Jésus, j'ai plus besoin d'être en accord avec la pensée de Dieu, et puis dans ce sens-là, je suis tranquille, quoi. J'ai plus cette dualité, forcément. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je veux ressembler à Dieu, si je veux écouter le Seigneur, si je veux apprendre de Dieu, si je veux retrouver cette nature d'Adam avant la chute, eh bien, j'aurai un combat à mener. Je vais devoir lutter contre ma propre chair. Je vais devoir lutter contre mes propres pensées normales, naturelles. Et c'est la raison pour laquelle, je reviens sur le texte que Paul nous disait que quand il nous exhorte à nous laisser transformer en nous donnant une intelligence nouvelle. Quand on regarde dans le texte en grec, quand Paul exhorte les Romains à être transformés, Eh bien, c'est le terme métamorphose qu'il emploie. Je dois être totalement changé. Je ne dois plus ressembler à ma nature de chair. Je dois me laisser tellement métamorphoser. Et effectivement, si vous prenez une chenille et un papillon, hein, la chenille ne ressemble pas au papillon. Hein. Et je dois être complètement transformé. Donc il y a cette dualité qui existe et qui existera toujours si je veux accomplir l'œuvre de Dieu. Si je veux si je veux ressembler à Dieu, si je veux retrouver ma place dans la pensée originale de Dieu, je dirais. Et puis donc, à cause de cette dualité qui existe, et je pense que frères et sœurs, on serait des menteurs. Je ne veux pas parler à votre place, hein, mais si on. Il me semble, en tout cas, c'est mon cas. Hein, si je disais, j'ai pas besoin de combattre contre ma chair. J'ai pas besoin de combattre contre ma nature. Je serais un menteur pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Et donc, je reviens sur un autre verset. J'aimerais vous lire le 2 Timothée chapitre 4, versets 3 à 5. Parlons de cette dualité donc qui existe. En effet, un moment viendra, je rappelle le texte que je vais lire, eh bien, c'est donc Paul qui s'adresse à Timothée et qui, au travers de ce que Paul dit à Timothée, il est en train de le dire à des chrétiens. Écoutez ce que dit Paul à Timothée. En effet, un moment viendra où certains ne voudront plus écouter l'enseignement juste, mais ils suivront plutôt leur désir. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de dire, l'apôtre Paul, quand il est en train de dire ça à Timothée ? C'est-à-dire, il est en train de dire que certains ne voudront pas, nous ne voudrons plus, parce que justement, il y a ce combat qui est là. Je ne sais pas si c'est facile pour vous de combattre contre votre nature, contre votre chair. Pour moi, ce n'est pas si facile que ça. Et j'imagine que pour vous, ce n'est pas non plus toujours si facile que ça. Eh bien, à cause de ça, quand je cherche la volonté de Dieu, eh bien, la volonté de Dieu fait rarement plaisir à ma chair. Elle est plutôt en opposition. Et à cause de ça, certains ne voudront plus écouter l'enseignement juste, mais ils suivront plutôt leur désir. C'est-à-dire, ils suivront plutôt ce que leur chair veut, ce que ma chair veut. Alors ils feront appel à une foule de maîtres qui leur diront ce qu'ils ont envie d'entendre. On peut aussi faire dire ce qu'on veut à la parole de Dieu. Mais ce qui est important, c'est d'entendre de la parole de Dieu ce que Dieu veut nous dire. Et pourtant, ça c'est une réalité. Ils feront appel d'une foule de maîtres qui leur diront ce qu'ils ont envie d'entendre. Ils fermeront leurs oreilles à la vérité et ils les ouvriront pour écouter des histoires fausses. Mais toi, sois raisonnable en toutes choses. Écoutez ce qui est dit dans ce verset 5. C'est intéressant quand même. Sois raisonnable. Donc Paul dit à Timothée, écoute, sois raisonnable. Supporte la souffrance. Travaille à annoncer la bonne nouvelle. Et sois un parfait serviteur de Dieu. Je reviens, il y a quand même quelque chose d'étonnant. Non, ce n'est pas étonnant finalement. C'est que, il y a cette notion donc de, ici Paul va dire à Timothée, supporte la souffrance et travaille à annoncer la bonne nouvelle. Je pense que tous ici, vous le savez bien. Et je répète encore une fois, quand on parle et quand l'apôtre Paul va nous dire à un moment donné, quand il va dire, je dois faire mourir ma nature charnelle, faire mourir la nature charnelle, ça ne se fait pas tout seul. Si je veux suivre et si je veux me laisser transformer dans mon intelligence, dans ma mentalité, pour arriver à ce que Dieu désire, frères et sœurs, il y aura des combats, il y aura des souffrances. Si je fais mourir en moi des choses, je vais souffrir dans certaines choses, bien sûr. Mais Paul va dire à Timothée, écoute, C'est raisonnable de souffrir. Supporte la souffrance et travaille à annoncer la bonne nouvelle. C'est pour ça que je disais, si je veux être tranquille avec moi-même, il suffit que je renonce à être transformé par l'Esprit de Dieu. Et si je veux être transformé, ben oui, je vais avoir des combats, bien sûr. Dans Genèse chapitre 4, Dieu va s'adresser directement à Caïn. Il va lui dire ceci, mais c'est une réalité pour nous aussi. Vous savez ce que Caïn a fait, hein ? Il a tué Abel. Et Dieu va dire à Caïn, avant que justement il tue Abel, le Seigneur accueillit favorablement Abel et son offrande, mais non pas Caïn et son offrande. Et Caïn en éprouva un profond dépit. Il faisait triste mine. Et le Seigneur lui dit, à quoi bon te fâcher et faire si triste mine ? Et c'est là où c'est intéressant, écoutez le verset 7. Si tu réagis comme il faut, tu reprendras le dessus. Sinon, le péché est comme un monstre tapis à ta porte. Il désire te dominer, mais c'est à toi d'en être le maître. Et ça, c'est une réalité pour chacun d'entre nous. C'était une réalité à l'époque pour Caïn. Et s'il avait dominé, s'il avait bien réagi, et s'il s'était laissé transformer dans son intelligence et sa mentalité, qu'est-ce qui s'est passé ici ? Caïn a été frustré. Caïn a été touché dans ses émotions, dans ses sentiments. J'aimerais vous dire à quel point, enfin je le sais par ma vie, et je le sais aussi par mon expérience, par tout ce que je peux entendre, tout ce que je peux partager, quand on laisse nos émotions naturelles ou nos sentiments issus de notre nature charnelle, eh bien, on fait rarement des bons choix. Ils nous conduisent plutôt à des mauvais choix. Alors, ici, on a cette interpellation. C'est que Dieu va demander à Caïn, mais il nous demande à nous, mais de réagir comme il faut. Et finalement, on connaît l'histoire, on sait que Caïn a tué Abel malgré tout. Donc il n'a pas écouté ce que Dieu a dit. Il a préféré écouter ses émotions et ses sentiments. Et puis, frères et sœurs, du coup, je me dis que, en réalité, nous, on est... je vais prendre moi, hein. Je sais que je ne suis pas plus fort que Caïn. Je suis fait avec la même nature. Frères et sœurs, je pense quand même que vous serez d'accord avec moi. Si je dis que nos pensées charnelles n'ont aucune attirance avec les pensées et la volonté de Dieu. Je parle de ma chair qui est donc, comme j'expliquais tout à l'heure, issue de cette nature d'Adam, pécheresse. Naturellement, nous n'allons pas aimer faire la volonté de Dieu. Parce qu'elle est tellement, bien souvent, contraire à nos émotions, à nos sentiments, à ce qu'on a dans notre être intérieur. Et je ne vais pas naturellement chercher à lui ressembler. Et je ne vais pas naturellement chercher à redevenir créé à l'image de Dieu avant la chute. Vous comprenez ? Et pourtant, c'est ce que Dieu désire. Et il me semble que c'est ce que, dans ce que Paul va laisser aux Romains, c'est qu'on doit se laisser transformer, laisser renouveler dans notre intelligence, avoir une intelligence nouvelle, pour justement redevenir comme celui qui a été créé à l'image de Dieu. Parfait. Transformé dans sa sagesse. Vous savez, la sagesse de Dieu n'a rien à voir avec notre sagesse humaine qui est issue de cette nature d'Adam. Jésus va dire, dans Jean chapitre 3 au verset 19, et voici comment on est condamné. La lumière est venue dans le monde, mais les gens ont préféré la nuit à la lumière parce qu'ils font le mal. Alors peut-être vous me direz, mais ça c'est les autres, c'est pas nous. Hein. Ce serait bien présomptueux de penser ça, me semble. notre nature n'aime pas la lumière. Quand on parle de lumière, on parle de la volonté, de la pensée de Dieu, bien sûr. On parle de qui est Jésus, qui est la lumière du monde, qui doit être notre lumière. Et on doit lui ressembler. Mais, enfin, ma nature de chair, enfin, naturellement, on ne va pas aimer la lumière. Et au verset 20, Jésus va dire « Tous ceux qui font le mal détestent la lumière et ils ne vont pas vers la lumière. En effet, ils ont peur qu'on découvre leurs mauvaises actions. Mais ceux qui font la volonté de Dieu vont vers la lumière. Ceux qui font la volonté de Dieu cherchent à se laisser transformer, cherchent à se laisser métamorphoser dans leur intelligence, dans leur nature. Ainsi, on voit clairement ce qu'ils font, on voit qu'ils obéissent à Dieu. » Et Jésus va dire, enfin, il me semble que c'est tellement fort ce que Jésus dit ici. On voit ce qu'ils font, on voit qu'ils obéissent à Dieu. C'est-à-dire que ma nature transformée, eh bien, elle produit quelque chose qui se voit. En tout cas, c'est Jésus qui le dit. Alors, on doit se laisser transformer par le renouvellement de notre mentalité. Je vais donc vous relire ce texte de Romains 12, mais dans une autre version. C'est la version Parole de vie, il me semble. Voilà ce qui est dit. Je vous demande donc, frères et sœurs, bien sûr. Hein, c'est pas écrit sœurs, mais je pense qu'on peut le comprendre comme ça, en tout cas. À cause de la bonté de Dieu, que Dieu vous a témoigné, de lui consacrer votre être tout entier. Donc, que votre corps, vos forces, et toutes vos facultés soient mises à sa disposition comme une offrande vivante, sainte et qui plaise à Dieu. C'est là le culte spirituel qui a un sens, un culte logique, conforme à ce que la raison demande. Première observation, Paul va dire, enfin je m'arrête sur ce verset, à ce que la raison demande. Ici, dans ce verset, il parle de notre raison. Il ne parle pas de nos sentiments, de nos émotions. Et il parle que nous devons donc que le culte raisonnable, le culte spirituel qui est logique devant la face de Dieu, c'est que notre être tout entier bien, soit mis à la disposition de Dieu comme une offrande. Alors je continue. Du coup, Paul dit ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. On est tous dans notre société, on est tous dans un moule. Hein. Enfin, on ne peut pas faire autrement. On a un exemple qui nous est laissé, on vit avec notre société. Et Paul va dire, bah, on ne doit pas se conformer à tous les principes de notre société. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Seigneur, aide-nous à comprendre. Est-ce qu'on est concerné? Ben oui. Alors, laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Je répète. Laissez-vous plutôt entièrement. C'est même pas laissez-vous transformer. Laissez-vous entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. C'est quoi notre attitude intérieure? Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. Autrement dit, quand je regarde ce texte, et quand je regarde ce que Paul est en train de dire ici, il dit que si je veux plaire à Dieu, donc à celui qui conduit à Jésus, si je veux plaire à Jésus, eh bien, je ne peux pas être capable de plaire à Jésus sans me laisser transformer dans ma mentalité. Du coup, enfin, j'ai écrit ça. Paul nous exhorte à laisser notre mentalité être totalement transformée. Nous devons dire à notre âme qu'elle doit adopter une attitude différente. Parce que ce qui génère, enfin, ce que nous sommes, notre attitude, c'est tout ce qui est à l'intérieur de notre âme. C'est toute l'expression de nos émotions, de nos sentiments, entre autres. Enfin, de notre volonté aussi. Mais en tout cas, ce n'est plus, si je comprends ce verset, je pourrais dire comme ça, ce n'est plus mes émotions et mes sentiments charnels, hein, qui doivent être décisionnaires dans ma vie. C'est seulement comme cela que nous aurons la capacité de reconnaître ce qui plaît à Dieu. Autrement dit, si j'écoute que mes émotions et mes sentiments issus de ma nature charnelle, qui est elle-même issue de la nature d'Adam, eh bien je ne peux pas, j'aurai pas la capacité de reconnaître ce qui plaît à Dieu. Je pourrais faire tous mes efforts, mais enfin, je serais incapable, en tout cas c'est ce que Paul dit ici, je serais incapable de reconnaître et de découvrir ce qui plaît vraiment à Dieu. Alors, juste un rappel, nos pensées charnelles, moi c'est ce que je constate pour moi, et puis encore une fois dans ce que je peux échanger quand j'ai l'occasion, je réalise quand même ceci. Nos pensées charnelles sont rarement en harmonie avec les pensées de Dieu. Et c'est plutôt le contraire qui se passe. Alors peut-être que ce n'est pas comme ça pour vous, mais quand même. Alors, pour continuer dans Romains chapitre 8, et là, j'aimerais vous parler. Donc, Romains chapitre 8, verset 3. « Car ce que la loi s'est avérée incapable de réaliser, Dieu lui-même l'a fait. Les commandements, en effet, n'ont pu produire en nous une vie sainte, parce que la résistance de notre être instinctif les paralysait. » On revient à notre nature de chair qui est issue de cette nature d'Adam. Eh bien, cette nature-là paralyse, enfin, c'est ce que dit Paul, notre être instinctif paralyse la pensée, la volonté de Dieu. L'impuissance de la loi est due à la faiblesse humaine. Ben oui, je suppose qu'on le constate tous les jours, ça. Ma volonté égoïste est plus forte que les préceptes. Et mon désir de jouissance leur ôte toute la force. Quand j'écoute mes émotions, mes sentiments. C'est ça qu'il est en train de dire. Alors voilà pourquoi Dieu a envoyé son propre vice, son propre fils sous la forme d'un simple homme, revêtu d'un corps semblable à notre corps, accessible au péché. Et je rappelle juste que quand Jésus est venu sur la terre en tant qu'homme, enfin, il a subi tout ce que nous, en tant qu'homme, on peut subir, enfin, dans ses émotions, dans ses sentiments. Encore une fois, il est venu, enfin, avec une chair pareille à la nôtre. Mais Jésus a triomphé du péché, contrairement à nous. Et notre nature pécheresse s'est vue condamnée et désarmée. En offrant sa vie en sacrifice pour le péché, il a brisé le joug du mal. Désormais, une vie juste, conforme aux exigences de la loi, devient possible. Wow. Ça, c'est extraordinaire. Désormais, une vie juste, conforme aux exigences de la loi, devient possible. À condition de ne plus mener notre existence d'après les normes usuelles, en suivant les impulsions de l'homme livré à lui-même, mais de placer toute notre conduite sous le contrôle de l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au travers de Jésus, on est capable, on est rendu capable, enfin, on a la possibilité de remporter, je vais dire, le bon combat. À condition, c'est ce que nous dit ce texte, à condition de ne pas suivre la norme, les normes usuelles, c'est-à-dire à condition de se laisser transformer, de se laisser changer, de ce que notre mentalité puisse être transformée et changée, à condition de ne pas suivre les impulsions de l'homme, de l'homme livré à lui-même, de l'homme qui ne serait pas changé par l'Esprit de Dieu. Si je suis ça, je passe à côté. mais plutôt de placer toute notre conduite. Toute notre conduite. Pas une partie. Pas une partie de ce que je suis, tout ce que je suis, sous le contrôle de l'Esprit de Dieu. Alors, quelque part, voilà pourquoi j'ai mon point numéro 3. Eh bien, c'est que je dois être transformé par choix, je dois choisir. J'ai un choix à faire. Je choisis de vouloir être transformé. Transformé pourquoi ? Ben pour être sous le contrôle de l'Esprit de Dieu. Ne plus me laisser contrôler et dominer par cette nature charnelle qui vient d'Adam et qui est en moi, mais me laisser contrôler par l'Esprit de Dieu. Et ça, ça vient tout changer. Alors, Galates 2:20, texte, enfin, en tout cas, moi je l'aime beaucoup ce texte, hein. Je pense que certainement vous l'aimez aussi, qui nous dit « Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Waouh, quelle réalité ! Alors tout de suite, bien sûr, la question, mais moi je me la pose, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est vraiment Christ qui vit en moi ? Dans mes actions, dans mes paroles, dans mon comportement avec les autres, est-ce que c'est vraiment Christ qui vit en moi ? Est-ce que c'est vraiment plus moi qui vis ? Parce que si c'est, quand il dans ce texte, enfin, si c'est moi qui vis, c'est-à-dire c'est cette nature issue enfin, d'Adam, quoi. Et, ou est-ce que c'est cette nature qui vient de Christ, avec le comportement, enfin, comme Christ nous l'a laissé, nous a montré comment vivre, il nous a expliqué, il nous a donné des tonnes d'instructions aussi, il nous a montré l'exemple. Est-ce que je vis comme lui ? Et aux Galates, Paul dit maintenant, ma vie humaine, je la vis en croyant au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui a donné sa vie pour moi. Alors, toujours dans Galates, au chapitre 5 et verset 16, il va nous dire, c'est pourquoi je dis, laissez l'Esprit Saint conduire votre vie. Ainsi, vous ne suivrez pas vos désirs mauvais. On revient à cette dualité. Mais laissez l'Esprit Saint. Faites le choix de renoncer à cette nature qui est attachée à votre personne forcément, afin que ce soit l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, qui conduit, enfin qui nous dirige, qui soit notre conduite. Et au verset 17, Paul va dire, mais ces désirs mauvais luttent contre l'Esprit Saint. On vient à cette notion de lutte. Ma chair, c'est ce que je disais tout à l'heure, enfin ce qui sort de ma chair naturelle, elle sera en opposition avec ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Et vous savez ce qui se passe, malheureusement. Si on écoute sa chair, eh bien on rejette les... Enfin, on veut pas... Enfin, c'est un peu comme si on avait un stylo rouge et puis on barrait des choses qui sont écrites dans la parole de Dieu. Parce que de toute façon, l'Esprit de Dieu, enfin, n'ira jamais en contradiction avec ce qui est écrit dans sa parole. C'est impossible. Alors je continue sur ce Galates 5, verset 17, hein, je vais vous lire jusqu'au bout. Donc ces désirs mauvais luttent contre l'Esprit Saint et l'Esprit Saint lutte contre ses désirs. Entre eux, c'est la guerre. Et la guerre, ça fait mal. Et le résultat, c'est que vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez. Mais si l'Esprit Saint vous conduit, alors vous ne dépendez plus de la loi. Parce que c'est l'Esprit Saint qui vous conduit. Et au verset 24, toujours dans ce chapitre 5, il est écrit, « Ceux qui appartiennent au Christ, Jésus, ont cloué sur la croix les désirs mauvais qui les entraînaient. » Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une question de choix. Ceux qui appartiennent au Christ ont cloué sur la croix. Vous savez l'effet qu'ont fait les clous dans les mains de Jésus ? Eh bien, nous sommes appelés à clouer sur la croix nos mauvais désirs, à renoncer à nos mauvais désirs, à renoncer à notre nature, à crucifier notre nature charnelle, à crucifier cette nature qui vient d'Adam, à crucifier nos émotions, nos sentiments quand ils sont contraires à la pensée, à la volonté de Dieu, à ceux qui viennent naturellement dans notre nature. Voilà pourquoi on doit être transformé. Voilà pourquoi on doit être métamorphosé. Et puis, au verset 25, « Puisque l'Esprit Saint nous fait vivre, laissons-nous conduire par cet Esprit. » Changeons de comportement. Laissons-nous métamorphoser. Plutôt que suivre notre nature qui est issue d'Adam, vivons avec cette nature qui nous vient de Dieu. Mais est-ce combat ? Qui dit combat va dire souffrance, c'est vrai. Quand je renonce à des choses qui sont attachées à ma vieille nature, mais ça se fait pas tout seul. Romains chapitre 8, verset 12. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous avons une dette. Mais la dette que nous avons, ce n'est pas envers nos désirs humains. Ce n'est pas en eux que nous avons cette dette. Nous ne devons pas vivre comme ils le demandent. Parce que si vous vivez en suivant ces désirs, vous mourrez. Au contraire, si avec l'aide de l'Esprit Saint, vous faites disparaître vos façons de faire égoïstes, alors vous vivrez. Il y a plein de textes, notamment dans les Épîtres, qui nous parlent de cette nécessité, finalement, de se laisser transformer, de se laisser métamorphoser dans nos pensées, dans notre intelligence, dans notre mentalité, dans nos émotions, dans nos sentiments. Et ça me semble tellement important. Et quand je réalise ce texte que Dieu a mis sur mon cœur, je pense qu'on va en parler. On va aller dans certaines choses très concrètes. Parce que Dieu est un Dieu très concret. Ce matin, je vous disais, je suis juste en train de vous faire une introduction. En tout cas, j'ai écrit ce que je disais tout à l'heure. Si je veux être tranquille avec moi-même, il suffit que je renonce à être transformé par la parole et l'Esprit de Dieu. Je vis alors sans lutte, je parle bien sûr sans lutte de ma nature charnelle, vous me comprenez, en suivant mes désirs charnels, et alors je me condamne spirituellement. Je fais référence à Romains 8, 8-12. Par contre, si je choisis, donc si je fais le choix, si volontairement j'assume et je fais le choix de me laisser transformer par le renouvellement de ma mentalité, c'est-à-dire que je cherche à, dans ce que je suis, dans mon être intérieur, à être changé dans mes pensées, qu'elles soient conformes à la volonté de Dieu. Et donc, pour être sous le contrôle de l'Esprit de Dieu, il y a une chose qui va se passer, et que c'est impossible autrement. C'est que je vais devoir lutter avec ma chair. Si vous pensez pouvoir vivre, être transformé, et pour être sous le contrôle de l'Esprit de Dieu sans qu'il y ait une lutte intérieure, vous vous trompez. C'est impossible. Mais c'est vrai, je vais donc devoir lutter avec ma chair. Mais je vais vivre avec Christ en moi. Et comme Paul dit aux Romains 8, verset 13, je vais alors réellement vivre. Et c'est ma conclusion pour cette introduction. Et juste pour terminer, parce que je vous ai dit plusieurs fois ce matin, j'en suis tellement convaincu, c'est que tout ce qui est en moi, encore une fois, mon âme, qui est le siège, encore une fois, de mes sentiments, de mes émotions, quand elle vient de ma nature charnelle, et si je laisse faire cette nature charnelle, ce qui est dans notre nature à nous tous, j'ai entendu une fois, mais Dieu, il sait les émotions que j'ai. Et c'est vrai. Est-ce que Dieu ne prendrait pas en compte nos émotions et nos sentiments ? Bien sûr que si. mais pas les sentiments, les émotions qui viennent de notre nature issue d'Adam. Il y a quelque chose qui me frappe. Vous savez, quand on regarde Jésus encore une fois, mais enfin, on aura l'occasion d'en reparler, mais Jésus qui parle de sa joie, et là, quand on parle des émotions et des sentiments, enfin, si on parle de notre tristesse, par exemple, c'est bien le reflet de ce qu'on a à l'intérieur. C'est bien le reflet de nos émotions, la tristesse, par exemple, ou la joie, enfin, là, etc. Il y a des blessures, il y a tout ça. Jésus va dire ma joie. Donc c'est le reflet de ses sentiments, c'est ce qui était à l'intérieur de lui. Je vous rappelle que Jésus, comme on l'a lu tout à l'heure, enfin, quand il est venu en tant qu'homme, ben, il était totalement homme, c'est-à-dire qu'il avait en lui tous ces sentiments, je ne sais pas comment vous dire, ces émotions, son âme était là, quoi. Eh bien, Jésus a dit, ma joie, c'est de faire la volonté de mon Père. Frères et sœurs, il y a une réalité. Je fais plaisir à ma chair, issue d'Adam, ma nature pécheresse. Je vais éprouver de la joie. Si je veux me laisser transformer, métamorphoser par l'Esprit de Dieu, je crois que je vais perdre, parce qu'il va y avoir un combat, puis que je vais perdre ma joie, par exemple, que je vais être frustré dans mes sentiments, dans mes émotions. Ça, c'est Satan qui veut nous faire croire ça. Enfin, en réalité, c'est faux. Je n'aurai pas la joie et la paix qui vient de... Si je n'ai pas ce combat avec ma nature de chair, mais j'aurai la joie parfaite et la paix parfaite que le monde ne peut pas donner, qui me vient de l'Esprit de Dieu. En fait, non seulement je ne perds pas, mais je gagne. On aura l'occasion d'en reparler. Voilà, je vous laisse là-dessus. Que le Seigneur vraiment touche nos cœurs et qu'on comprenne qu'on a besoin d'être métamorphoser les uns et les autres, et que cette métamorphose, frères et sœurs, eh bien, elle va durer toute notre vie. Mais que le Seigneur vous bénisse ce matin, en tout cas, et qu'il nous aide à comprendre ces choses. On va prier ensemble, si vous voulez bien.